un royaume où vivaient trois religions, la Navarre médiévale. Voici la seconde et dernière partie de la conférence de Béatrice Leroy, historienne du Moyen-Âge. Conférence enregistrée à la cathédrale de Bayonne le 20 décembre 2016. Un royaume où vivaient trois religions, la Navarre médiévale. Voici la seconde et dernière partie de la conférence de Béatrice Leroy.
Donc, une vie chrétienne tout à fait impeccable. Mais ceci à côté donc d'autres groupes qui se trouvent dans les alentours et qui, de tradition aussi, je dirais depuis toujours pour les Juifs, depuis donc la conquête musulmane, c'est-à-dire depuis le 8e siècle pour les Maures, on dit les Maures dans les textes espagnols, Moro, Morus on peut le dire pour le latin si vous voulez, donc les Maures se trouvent là. Les Maures, comme les Juifs, ont été très importants dans l'ensemble des villes espagnoles. Les Juifs, jusque dans le nord de l'Espagne, depuis l'époque andalouse surtout, depuis l'Antiquité, depuis le début donc du christianisme, du judaïsme, depuis l'Empire romain. Les Juifs sont venus en péninsule ibérique avec le grand commerce, avec toute l'installation politique de l'Empire latin, bien sûr, de l'Empire romain. Ils sont restés dans les divers royaumes qui se sont créés aux dépens de l'Empire romain après 476, qui est la fin de l'Empire romain d'Occident. Ils ont continué sous les Visigoths, mais ils ont été très persécutés par les Visigoths au 7e siècle. Ils étaient donc là lorsque les musulmans, à partir de 711, 720, 730 pour le nord de la péninsule ibérique, 730, 740 lorsqu'ils prennent l'ensemble de la Navarre ou le sud de la Navarre, donc se trouvent dans la péninsule ibérique et ainsi marquent de communautés musulmanes et donc de communautés judaïques l'ensemble de leur domination. Beaucoup de Juifs qui sont connus en Navarre et qui le demeurent jusqu'à leur départ de la fin du XVe siècle ont des noms andalous, Abou Lafia, Aben Menir, Aben Soussan, Aben Chaprout, Benveniste, etc., que nous trouvons donc dans ce monde judéo-espagnol et qui se trouvent très nombreux. Vous avez donc la carte pour les communautés juives, très nombreux à Tudela, assez nombreux à Pamplune, à Estella, mais surtout Tudela dans la vallée de l'Ebre, car Tudela demeure ville musulmane jusqu'à la Reconquista. Et en effet, la ville de Tudela est reconquise par les chrétiens en 1118. Donc, 1118, vous voyez, tout le cours de l'Ebre demeure sous domination musulmane. Il y avait un émirat très important à Saragosse et un autre très important à Huesca qui supervisait ces petites communautés navarraises. Mais en tout cas, donc, il se trouve donc jusqu'au XIIe siècle dans ces territoires. La ville de Saragosse elle-même est reconquise un an après Tudela, en 1119. Donc, conquête récente, évidemment, qu'il faut continuer à connaître ainsi. Musulmans et juifs se trouvaient dans les villes reconquises par les chrétiens, et c'est ainsi que les chrétiens reconquérants offrent une alternative aux gens qu'ils trouvent dans Tudela, ou qu'ils trouvent dans les villages des alentours, où vous restez sur place, mais sous pacte chrétien, selon un fuero particulier, vous rachèterez par une pecha, qui est donc l'amende, mais pas l'amende, non, la capitation, oui, qui est votre rachat de vie, et qui est calculé selon l'importance démographique et selon le poids économique, selon la formule « le fort portant le faible », les plus riches très imposés, les plus faibles peu imposés ou pas imposés du tout, et c'est au sein de la al-hama, qui est un terme musulman, mais qui est donné aux juifs comme aux musulmans, donc la communauté, au sein de la communauté, la liama ou la lhama, de répartir donc ceux qui doivent payer, ceux qui ne doivent pas payer, ceux qui doivent payer beaucoup et autres, ce qui évidemment soulève toutes sortes de contestations, d'injures vis-à-vis des collecteurs juifs et surtout du rabbin et des notables, car les communautés ne perdent jamais l'habitude et la bonne raison de vivre, de lutter contre leurs notables qui n'ont jamais les qualités qu'il faut, alors qu'ils sont en principe élus par la communauté, en principe, en fait, cooptés et en général se succédant de père en fils. Mais donc ainsi, pour toutes les petites communautés médiévales, nous les avons ainsi, vous voyez, dans ces groupes. On évalue à peu près le 10% des juifs de Navarre, de la population totale, ce qui est le pourcentage habituel dans toute la péninsule ibérique. On en dirait autant dans toutes les villes. Ils sont par exemple 2000 sur 20 000 habitants à Saragosse. À Tudela, ils sont 1000 ou 1200 sur environ 8000 habitants à Tudela. Ils sont 5 ou 600 à Estelia sur peut-être 2000 habitants. Ils sont un peu moins nombreux et surtout venus des régions françaises et des régions périphériques à Pamplune et dans les villes du nord, dans les villes donc de la tranche septentrionale de la péninsule ibérique. À Pamplune, ils peuvent être 700 ou 800, donc sur 8000 habitants aussi. C'est donc surtout à Tudela et dans les villages périphériques que se trouvent les juifs. Quant aux musulmans, alors, ils sont restés selon le même pacte. Vous restez là en vous soumettant donc à ce droit de rachat, en ayant vos mosquées, mais à condition de ne pas les agrandir, en ayant un minaret, mais à condition de ne pas crier trop fort. De même pour les synagogues, vous avez votre synagogue ou vos synagogues, mais à condition de ne pas en faire donc des bâtiments trop ostentatoires, de ne pas trop crier, ni d'aller dans les rues avec vos marchandises le dimanche et les jours de fête chrétienne, alors que vous avez votre samedi, vous avez votre Shabbat, par exemple, et donc les musulmans ont leur vendredi. Mais donc, si le respect des autres est observé, on peut vivre côte à côte. Et si vous n'admettez pas, eh bien vous partez. Les musulmans peuvent repartir vers le sud. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans tout l'ensemble de la Reconquista. Il est bien connu que les musulmans de Tolède sont allés occuper Séville à partir de 1085, la prise de Tolède. Mais à partir de 1248, la prise de Séville, ils sont allés au Maroc, voyez, par vagues ainsi. Les juifs restent, en général restent sur place, mais donc peuvent parfaitement aller et venir. Et selon le fourreau général de Navarre et selon toute proclamation des rois de Navarre, même ceux qui sont français, ou surtout ceux qui sont français et qui se sont mis à bonne école, les juifs peuvent entreprendre tous les voyages qu'ils veulent, avec une lettre de sauvegarde, avec le sauf-conduit de la part du roi qu'ils entreprennent ce voyage et qu'ils sont en quelque sorte délégués de la communauté navarraise. On ne doit pas y toucher, on ne doit pas leur porter atteinte dans l'ensemble des pays qu'ils traversent, car ils ont été envoyés par le roi. C'est une lettre de créance, qui est le terme d'ailleurs qui est donné aux ambassadeurs. Voilà, qui doivent ainsi voyager, et ils ont donc toute sauvegarde. Très souvent, ils sont envoyés par les rois eux-mêmes pour toutes sortes de causes diplomatiques et économiques, on va le voir. Donc, une franchise personnelle totale sous protection royale. Il y a évidemment des ratés dans l'accomplissement de tout cela, mais c'est une sauvegarde perpétuelle, voilà, ainsi. Et lorsque le roi doit faire connaître quelque chose. Il envoie ses crieurs publics. Vous savez évidemment qu'à l'époque médiévale, c'est une façon de faire connaître ceci, cela. Il envoie ses crieurs publics, qui doit donc ainsi se charger de ses communautés. Et le crieur, tout pendant la durée de la proclamation, pendant 4 jeudis de suite, doit crier dans les carrefours pour la population chrétienne. Pendant 4 vendredis de suite, doit crier dans les mosquées pour la population musulmane. Pendant 4 samedis de suite, doit crier dans les synagogues. Et encore 4 dimanches de suite dans les églises pour la population chrétienne, si elle n'a pas écouté la proclamation de tout le monde du jeudi. Ainsi, donc, pour cette proclamation généralisée, vous voyez donc le respect des jours saints, des jours d'observance ainsi. Chacun d'ailleurs de ces groupes socio-religieux doit avoir ses propres livres et ses propres dignitaires. Chez les musulmans, bien sûr, le Coran et les commentaires de Coran. Nous avons à la tête de la communauté de Toudela un qadi, on dit al-faqih aussi, le faqih, le qadi, donc le responsable principal, qui est très souvent l'homme à tout faire, donc qui est là pour l'observance du culte, pour être le joint vis-à-vis du souverain, et qui a aussi son mutasib, son salmedina, etc., les dignitaires arabo-musulmans qui sont nécessaires pour l'observance de la discipline, mais donc une réunion ainsi. Et c'est le qadi de Toudela qui est donc à la tête de environ 200 à 300 dignitaires qui sont autour de lui, qui jusqu'à la fin sont capables de lire et d'écrire autour de lui, auprès de lui, l'arabe. C'est lui qui dirige toutes les communautés des petits villages du Val de l'Èbre. C'est ainsi que Cortés, par exemple, que vous voyez à la frontière de l'Aragon, a une population, on peut dire, essentiellement musulmane, 2 ou 3 familles chrétiennes, peut-être, juste pour dire que c'est tout de même en Navarre, donc on est sous gouvernement chrétien, mais c'est une localité essentiellement musulmane, et on trouverait exactement la même chose dans le royaume d'Aragon voisin, où les vallées des principaux fleuves qui sont les affluents de l'Èbre sont entièrement occupées aussi par des musulmans, depuis toujours, depuis la conquête, restés donc sous occupation chrétienne, sous pacte, sous fuero particulier, donc une grande coexistence ainsi avec ce royaume voisin. Donc, les musulmans observent les piliers de l'islam, on le sait par toutes sortes de textes qui quelquefois punissent ceux qui ne le font pas, donc la proclamation de la foi, le don de l'aumône, l'assistance pour les ablutions, le ramadan, le pèlerinage à la Mecque, il faut pouvoir y aller. On sait que en 1354, un musulman de Toudela, avec la cotisation de toutes les communautés de ce sud de la Navarre, qui n'avait pas pu faire le pèlerinage, mais l'un d'eux est parti avec la sauvegarde royale, avec des lettres de créance, pour traverser les frontières et les divers pays, et prendre un bateau, etc., donc pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. 1354, vous voyez, c'est observé et ça le sera toujours ainsi. Mais, bien sûr, l'imam de la mosquée de Toudela est lui-même supervisé par, au XIIIe siècle, quand il y en a encore, par les imams des communautés du Sud, en particulier de Cordoue et de Grenade. Et puis, au fur et à mesure de la Reconquista, ce sont plutôt des imams de Fès qui, de temps en temps, envoie des observateurs, mais on peut dire qu'il y a une communauté interne, les familles Alpelmi étant à la tête de à peu près tous les postes de la communauté Maure et restant ainsi, le fils nommant le successeur ainsi. Le roi permet la rédaction de ces textes en caractère koufique et c'est ainsi que, toujours dans la famille Alpelmi, sur acte de fondation royale, dont nous avons gardé les textes dans les archives qui se trouvent à Pamplune, nous avons donc des nominations de notaires maures qui ont la scribénie maure et la possibilité donc de la rédaction de ces fameuses cartas morengas qui se trouvent là. Il y a peut-être un office qui se prépare, mais ça n'ira pas très longtemps, donc nous pouvons continuer. Les juifs de Navarre, très nombreux donc à Tudela, 1 à 1200 sur 8000 habitants, importants aussi à Estella, Pamplune, avec une autre provenance, un tel ou un tel, Abraham ou Yehuda ou Joseph, etc., ou Isaac, de Ponto de Mer, de Neubourg, de Clermont, de Paris, de Passy, on voit donc, ou de Bergerac, ou de Beaucaire, etc., viennent donc s'installer à Pamplune et se soumettent à la loi de tous, là aussi. Il y a toujours la loi de l'Église, la loi de l'État, mais par paiement, par achat de privilèges, par bonne disposition de l'un ou de l'autre, toutes sortes d'arrangements avec la loi, nous allons dire, qui fait que quelquefois on arrive à des situations tout à fait différentes des normes habituelles. C'est ainsi que les juifs de Pamplune ont une ruderia bien marquée et constamment inventorier un tel habite à tel ou tel endroit, de telle rue. Il n'y a pas d'habitation à tel endroit car c'est le lieu de la synagogue. Il n'y a pas d'habitation parce que c'est le lieu du mikvé qui est le bain rituel, etc. Donc, nous avons une ruderia très marquée. Mais à Tudela, par exemple, où il y a trois ruderias, trois synagogues, les juifs, outre ces lieux qui se forment spontanément parce que c'est à côté de la synagogue, à côté du mikvé, à côté du cimetière, à côté donc de l'école talmudique, la yeshiva, etc. Nous avons donc tout à fait la possibilité de vivre ailleurs, s'ils le veulent, de vivre en plein quartier chrétien, de même d'ailleurs que des chrétiens peuvent posséder des maisons dans les rues d'Elias et en tirer des revenus, mais les juifs aussi peuvent très bien aller chez les chrétiens. Et tout autour de Tudela, dans les champs de la vallée de l'Èbre, en plein lieu d'horticulture, d'irrigation, de mise en valeur très rentable et très systématique, nous avons quasi côte à côte, dans les mêmes secteurs, les champs des chrétiens, les champs des juifs, les champs des musulmans, et en tout cas, une très grande communauté économique dans la plupart de ces localités. Que ce soit à Pamplune, à Estella, Sangüesa, Olite également, dont le rabbin dépend de la nomination du rabbin de Tudela, nous avons, entre toutes ces communautés, nous avons des échanges économiques tout à fait remarquables. À Tudela, par exemple, ou autour de Tudela, dans les villages qui ont l'une et l'autre communauté, nous avons des remarquables horticulteurs. Et les juifs, autant que les musulmans, sont horticulteurs. Ils savent créer des canaux d'irrigation. L'un des rabbins de Tudela crée un canal de dérivation des eaux de l'Èbre depuis le nord de Tudela jusqu'à Tudela, par exemple. C'est le rabbin Yitzhak ben Menir. Nous avons ainsi donc une horticulture dans les mains des juifs autant que des musulmans. Les musulmans sont très bons horticulteurs et se spécialisent dans le travail des plantes textiles, et en particulier dans la sparterie. et il travaille les cordes, les cordages, la bourrellerie. Voilà, donc le travail du cuir aussi, donc les métiers traditionnels peut-être pour ces musulmans du Sud. Nous avons aussi pour les musulmans, alors, et ça c'est très particulier, le travail du fer, des armes. Ils sont tous, ou presque tous, maréchaux ferrants, ferronniers. Ils travaillent dans les écuries royales pour ferrer les chevaux. Ils sont d'ailleurs très bons cavaliers aussi et ils dressent les chevaux du roi. Ils manient les armes de guerre. Et lorsque le roi de Navarre, qui est en même temps comte d'Évreux, qui est opposé au roi de France et qui fait la guerre, c'est Charles II, qui est roi de 1349 à 1387, très très opposé au roi de France, qui lui avait pris quelques-uns de ses héritages et qui ne voulait pas lui laisser occuper certains postes dans le gouvernement de Paris. Donc Charles II fait la guerre dans le Cotentin, dans la région d'Évreux, dans toute la vallée de la Seine, et Charles II, puis plus tard Charles III, au moment de récupérer le port de Cherbourg, qui est à lui aussi, emmène ou fait envoyer des musulmans de Tudela qui manient évidemment les armes blanches, mais de plus en plus aussi dans la seconde moitié du XIVe siècle et XVe siècle, ça y est, l'artillerie à feu, et en particulier ils sont maîtres canonniers et ils manient les premières arquebuses dans ces armées royales. Et le roi les emploie contre les armées françaises et de temps en temps du côté des Anglais, lorsque le roi est allié aux Anglais contre, nous sommes au moment de la guerre de Cent Ans, donc contre le roi de France. Le roi fait payer leur solde quotidienne, qui est exactement du même prix que la solde de ces soldats chrétiens navarrais, qui sont donc des paysans ou des hommes des villes de Navarre. C'est le même tarif, mais le roi leur fait payer à Tudela dans les mains de leurs femmes, monogamie observée donc dans ces communautés musulmanes. Ils ont une femme et c'est elle, avec le nom Séti, Soloru, Myriam, etc., qui reçoit la solde de son mari. Vous voyez donc des traits qui montrent ainsi cette communauté de vie, pour le meilleur comme pour le pire. Nous avons aussi dans ces milieux socio-confessionnels, nous avons des métiers qui se spécialisent. C'est ainsi que les Juifs de Navarre, horticulteurs, commerçants, marchands de chevaux, sont en général de tous les métiers du textile et de tous les métiers de l'orfèvrerie. Ils sont remarquables orfèvres, ils sont pelletiers, donc travaillent la fourrure, ils forment des vêtements de luxe pour la cour, des robes de soie pour les hommes et pour les femmes, Douenia Benkavia, ou Enkav, qui est une juive de Pamplune, et dont on a un inventaire après décès en 1401, qui a un remarquable détail d'un équipement vestimentaire tout à fait remarquable à la maison. Elle était marchande, oui. Elle était spécialiste des bourses de fil de soie rebrodées de perles, ainsi pour les dames de la cour. Donc métier de haut luxe. Métiers d'orfèvrerie, métiers de textile, ou les métiers de tout le monde, ou le textile de tout le monde, teinturier, tisserand, cardeur, cardeur de laine, etc., pour les Juifs de l'ensemble de la Navarre. Mais surtout, les Juifs sont médecins, médecins de la cour, les Juifs de cour, médecins, confidents, protégés par le roi, et en particulier, ils l'accompagnent dans tous ses voyages. De même pour les reines, qui font venir, lorsqu'elles sont espagnoles, lorsqu'elles viennent de Castille ou d'Aragon, donc vont venir les Juifs qu'elles ont personnellement à la cour de Castille ou à la cour d'Aragon et qui les accompagnent à la cour de Navarre, donc médecins. Alors que les sages-femmes sont en général les morts, les femmes mortes de Tudela et qui sont envoyés à Pamplune, donc, ou à Olité, qui est plutôt la résidence royale au XVe siècle, au moment des accouchements des reines, et ce sont les parteras. La partera, c'est évidemment la sage-femme qui, la maora, qui donc font naître les bébés royaux. Voilà quelques spécialités. Spécialité aussi dans la diplomatie, car beaucoup de juifs sont envoyés avec des lettres secrètes et la lettre de créance, qui est leur sauvegarde pour les protéger dans leur voyage, sont envoyés dans les diverses cours espagnoles, mais aussi à Paris et également en Avignon chez le pape. Pourquoi pas? Parce que le milieu pontifical est un milieu très puissant en diplomatie. Toutes les affaires internationales du monde occidental médiéval donc se traitent dans la cour pontificale, y compris les mariages royaux, tout ceci donc chez le pape, chez les cardinaux, chez les évêques et toute l'aristocratie qui gravite. Et le roi de Navarre a toujours quelque chose à faire dire. Certes, il envoie plutôt son évêque ou son doyen de Tudela, ou son prieur du chapitre des chanoines, ou l'abbé cistercien de tel ou tel, ou le frère dominicain, mais très souvent aussi tel ou tel juif qu'il connaît et qui est auprès de lui. Donc, un aspect, vous voyez, de grande amplitude et de grands échanges. Mais il y a tout de même bien des difficultés, car la justice royale n'est pas toujours juste. C'est ainsi que les juifs et les musulmans qui volent, qui font ce qu'il ne faut pas contre le fuero, sont en général beaucoup plus taxés avec de lourdes amendes que ne le sont les chrétiens ordinaires. Surtout lorsque l'un ou l'autre, évidemment, prend sur lui de se mêler des affaires des chrétiens, vole les chrétiens ou achète quelque chose qui leur serait défendu. C'est ainsi qu'un juif de Tudela a volé une cloche d'église, dit le texte. Ça n'est certes pas le grand bourdon de la cathédrale de Pamplune, non, il n'aurait pas pu. Mais il s'agit sans doute de la clochette qui marque les temps liturgiques des célébrations. Il a volé cela, pourquoi faire? Pour fondre le métal et en faire autre chose. Et il a dû payer 50 livres, cher payé, car une 50 livres, c'est le prix d'une très grande propriété foncière, c'est un très gros achat d'un très gros objet d'orfèvrerie de la cour, par exemple. Donc, un exemple. Donc, difficulté ainsi. Difficulté et grave pénitence, si ce n'est donc exécution, lorsqu'il y a des rapports un peu trop proches. Un mort de Tudela a vu de trop près une femme chrétienne qui a hurlé, qui s'est défendue, mais en tout cas, le mort a été arrêté. Depuis Tudela, on l'a fait marcher jusqu'à Pamplune et dans les rues de Pamplune, jusqu'à la place du marché de Pamplune où il a été fouetté en public. Il a dû donc suivre un criard public, « Venez voir la punition de Mahomet un tel » qui, voilà. Et donc, il a été fouetté en place publique, puis on l'a renvoyé chez lui, ça ne l'a pas tué. Mais quelques traits, donc, peuvent être assez punis. Un autre mort a voulu approcher une fille publique. Vous voyez évidemment ce que représente la fille publique, qui, vertueuse, a dit « Je ne le ferai pas avec toi, car tu es un mort ». Voilà, la vertueuse prostituée raciste a été donc tout à fait laissée dans sa bonne conduite habituelle, mais le mort a été fouetté dans Tudela. Alors, il est resté dans Tudela. Mais il a dû payer le crieur et les cordes qui lui ont lié les mains et les cordes qui l'ont fouetté. Quelques deniers, quelques sous. Mais enfin, pour montrer, vous voyez, qu'on ne se mêle pas trop de trop près de l'un et de l'autre, ainsi de communauté à communauté. Beaucoup plus grave, en 1375, Samuel Bonlabor est trouvé dans le lit d'une chrétienne par le mari de la chrétienne, Piero de Sansoain, qui évidemment le tue. Et il a fallu alors que la communauté de Pamplune, c'était dans Pamplune, paie très cher pour avoir le corps de ce juif, car le mari chrétien voulait le brûler et la communauté tenait à l'enterrement, donc selon les rites juifs traditionnels, avec le châle de prière, les mains le long du corps, donc, et l'enterrement quasi immédiat dans la terre du cimetière des Juifs. Vous voyez donc, par toutes sortes de détails ainsi, on peut voir l'observance. À l'intérieur d'ailleurs de la communauté, la loi juive ou la loi musulmane n'est pas toujours observée de façon tout à fait rigoureuse. Et étant donné que la communauté frappe d'une certaine amende le coupable, elle doit le déclarer à la chancellerie chrétienne qui prend le tiers de l'amende qui est demandée ainsi et écrit donc, heureusement pour les historiens, béni soit Dieu pour les historiens, écrit ainsi dans le registre de la chancellerie, un tel ou un tel a été puni parce qu'il a touché des deniers le jour du Shabbat, parce qu'il a édifié la cabane de Soukhot avec de fausses palmes, la fête de Soukhot qui suit le Yom Kippour et le début de l'année, donc 10 jours après le Yom Kippour. Un autre a acheté du foin pour sa mule le jour du Shabbat, ou un tel. Et il y a aussi, au sein de la communauté maure et au sein de la communauté juive, des meurtres entre eux pour des règlements de compte dont on ne sait pas toujours le détail, mais en tout cas des meurtres. En général, ça se passe dans les abattoirs communautaires, car les uns et les autres donc, doivent suivre une certaine alimentation, la viande halal pour les maures, donc un certain abattage pour les maures, et surtout, évidemment, la cacheroute pour les juifs, et donc l'abattage rituel. La bête doit être vidée de son sang et on lui retire le nerf sciatique. Voilà pour les coutumes juives et les coutumes musulmanes. Ceci alors montrant que tout de même tout va avec les ratés de parcours. Des moments de violence aussi. En 1328, le roi n'était pas là, n'était pas encore arrivé dans son royaume, le couple royal. En 1328, un frère franciscain d'Estella, Pedro de Oyogoyen, a prêché la population d'Estella contre le peuple déicide au moment de Pâques, 1328. Absence royale, Pâques, prédication un peu abusive ou trop abusive. Et c'est ainsi que la communauté d'Estella a été victime d'une terrible matanza. On est entré chez les Juifs, on les a tués ou volés ou fait chasser, donc ainsi, et de même à Pamplune, où on a tué personne, mais où on a pillé l'alhama des Juifs de Pamplune. Dès que le roi revient chez lui, 1329, c'est Philippe d'Evreux, avec sa femme Jeanne de France-Navarre, qui lui a apporté l'héritage de la Navarre. Il met à l'amende de 10 000 livres la cité d'Estella. Il envoie dans les prisons de l'église Pedro de Oyogoyen. Il sévit évidemment contre cette matanza, qui a été un trouble terrible dans ses communautés et dans toute la société de Navarre, qui a mis très longtemps donc à s'en remettre. Et il y a eu donc des sanctions royales, mais le mal a été fait. De temps en temps aussi des meurtres ou des ennuis. En 1358, à Tudela, le frère du bailli de la région, qui doit être un jeune écuyer français, Guillaume de Rouvray, entre avec des fêtards la nuit de la Pâque juive dans la synagogue des Juifs, au moment où les Juifs donc chantaient leurs offices de nuit, et ils sèment le trouble dans la synagogue. Les Juifs répliquent, tirent leurs armes, détail intéressant car en principe cela leur est défendu, mais en payant et en les cachant on en a quand même, et ils montent tous à l'assaut du château de Tudela où l'écuyer s'était réfugié. Le roi a fait payer tout le monde, oui, les Juifs, l'écuyer, mais voyez, il suffit d'un petit rien, il suffit d'une bêtise, ou il suffit d'une prédication, ou il suffit donc de la fête de quelques éméchés pour que tout tourne mal. Mais tout tourne mal véritablement en 1498 pour les Juifs de Navarre. À ce moment-là, les rois de Navarre sont Catherine de Foix-Béarn et son mari Jean d'Albret, qui sont là sur le trône depuis 1483. La Navarre est déjà à moitié mangée par les troupes aragonaises qui ont pris le sud-est, par les troupes castillanes qui ont pris l'ouest. Reste une petite Navarre, bien gouvernée d'ailleurs par le couple de Navarre-Albret, dans ces moments-là, mais on doit obéir aux normes exigées par les rois catholiques, sinon c'est l'invasion de la Navarre, et c'est ainsi que les Juifs doivent ou se sauver ou se convertir. 1498, ce sont les derniers Juifs du sol ibérique, alors que tous les autres avaient été déjà ou chassés ou soumis à la conversion. Ils ne peuvent plus aller nulle part. Du côté français, c'est fini depuis 1394. Du côté aragonais et castillan, depuis 1492. Très massivement, les Juifs de Navarre se sont alors convertis. Convertis véritablement, convertis, toujours juifs en soupape. Bon, ils sont là avec des noms chrétiens. Ils s'appellent Lopez, Alvarez, González, Fernandez, etc., ou avec des noms de baptême rappelant leurs parrains. Donc, ils sont dans Tudela et dans les alentours. De même, les musulmans qui sont là, ils sont encore 200 environ, tandis que les juifs sont environ 2500. Donc, ils avaient représenté une très forte population, 1000 à Tudela, 800 à Pamplune, 500 à Estella, 300-400 aussi à Sangüesa et à Olite et dans les villages. Donc, encore 200 environ morts de Navarre. C'est le moment où le roi d'Aragon, Ferdinand, en 1512, décide de l'occupation définitive de la Navarre et surtout de mettre au pas, en quelque sorte, la Navarre à ses communautés donc, qu'il a dirigées dans les États de l'Espagne rassemblés. Et les musulmans avaient été expulsés en 1501 et les morts de Navarre étaient toujours là, donc en 1512. C'est l'expulsion des morts ou la conversion. Quelques-uns se sont convertis, mais la majorité des morts de Navarre ont rejoint le Maroc et les États du Maghreb qui déjà recevaient depuis 1492, donc depuis 1501, l'ensemble de ses ressortissants. La Navarre, je termine par quelques phrases, a ainsi fait le ménage, plus ou moins, mais plutôt moins que plus, peut-être, pour les Juifs, qui sont toujours là, mais convertis. En 1521, Henri d'Albret, le fils de Jean d'Albret et de Catherine de Navarre, a essayé de reconquérir la Navarre. Il a échoué complètement, c'est l'échec de la bataille de Noailles, mais il a failli entrer dans Tudela. Il faut trouver un fauteur, il faut trouver quelqu'un de coupable. C'est ainsi que le gouvernement royal de Castille et Aragon dit que ce sont les conversos juifs qui ont voulu ouvrir les portes à Henri d'Albret. Pensez donc, mais c'est ainsi. On ne leur fait rien de spécial, mais on dresse dans le haut de la cathédrale, enfin c'est encore la collégiale de Tudela, la manta, la couverture, c'est-à-dire l'ensemble des San Benito, qui est la chasuble ou le tabar que doit porter le converti, avec son nom écrit dessus, et on les dresse dans une sorte de rampe de vêtements de 1000, 1500 dans le haut des voûtes de la cathédrale de Tudela, avec le nom écrit donc sur le tabar. Mais si haut, tout contre les voûtes, que personne ne peut lire. Donc on obéit en dressant cette manta de tabar selon les ordres des rois catholiques, mais on ne peut pas savoir qui est qui. Voilà. Mais la manta y est restée jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la conquête de Napoléon, qui a abrogé pour un moment l'Inquisition en Espagne, qui a fait descendre la manta. Et lorsque Ferdinand VII a rétabli l'Inquisition en Espagne, on a complètement oublié, c'était devenu inutile. D'ailleurs, personne ne lisait, personne ne voyait la manta de Tudela. Malheureusement, elle a été brûlée, car on aurait bien aimé savoir, en lisant les noms écrits en 1521, qui était qui, mais on ne peut pas savoir exactement quel nom de juif se trouvait derrière le nouveau Lopez ou Alvarez ou Fernandez, donc, qui se trouvait là. Voilà donc quelques exemples, vous voyez, porte ouverte dans les recherches des archives de Navarre, vis-à-vis des mercédaires, vis-à-vis des dominicains, vis-à-vis des cisterciens de Fitero, des maures de Cortés, des juifs de Tudela, des juifs de Pamplune, des juifs d'Estella. Et je vous remercie, et j'espère que vous allez vite aller vous réchauffer en buvant un chocolat de Bayonne qui a été une création, tout le monde le sait, des juifs espagnols lorsqu'ils sont revenus en 1550 avec la sauvegarde du roi Henri II de France. Je vous remercie.
Un royaume où vivaient trois religions, la Navarre médiévale, vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence de Béatrice Leroy, historienne du Moyen-Âge, conférence enregistrée le 20 décembre 2016 à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.